Isabelle, il faut qu'on vous prévienne, on n'est pas 1500 et on a un mode de fonctionnement très particulier dans cette église. Je ne suis pas pasteur. Donc je pense qu'à Shanghai, c'est des gens qui ont un rôle très particulier et reconnu par l'ensemble de l'église, qui prennent la parole pour la prédication. Dans notre église, ce n'est pas le cas. Et à tour de rôle, plusieurs personnes désignées par les anciens se chargent de cela. Donc je tiens à le préciser, c'est une responsabilité pour moi que votre première prédication en français soit la mienne. Bon, alors ça me rassure. Merci de me rassurer, de m'ôter un peu de ce poids-là. Et donc aussi pour nos amis qui viennent, que je connais, qui sont là, et que nous connaissons. Je tiens à dire donc, que nous sommes inscrits dans l'étude de l'évangile de Jean depuis maintenant près d'une année, et que chaque fois, environ toutes les 2-3 semaines, nous avançons dans l'étude de cet évangile. Et aujourd'hui, nous en sommes au chapitre 10, les versets 1 à 21, chapitre dit du bon berger, que nous connaissons bien. Mais nous allons d'abord le lire ensemble. Durant cette prédication, nous allons lire pas mal de textes, ce qui me paraît finalement une chose sensée. Et je vous demanderai donc en même temps de les suivre et d'entendre ma voix pour bien s'en imprégner. Donc nous allons lire ce que nous allons étudier ce matin. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre point par la porte dans la bergerie, mais qui monte par un autre côté, celui-là est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et les mène dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes celles qui lui appartiennent, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Jésus leur dit encore, « en vérité, je vous le dis, moi, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont pas écoutés. Moi, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et sortira et trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour voler et tuer et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Moi, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire qui n'est pas berger et à qui les brebis n'appartiennent pas voit venir le loup, abandonne les brebis et s'enfuit. Et le loup s'en empare et les disperse. C'est qu'il est mercenaire et qu'il ne se met pas en peine des brebis. Mais moi, je suis le bon berger. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent, comme le Père me connaît et comme je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut aussi que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Il y eut de nouveau, à cause de ces paroles, division parmi les Juifs. Plusieurs d'entre eux disaient, « Il a un démon, il est fou, pourquoi l'écoutez-vous » D'autres disaient, « Ces paroles ne sont pas celles d'un démoniaque. Un démon peut-il ouvrir les yeux des aveugles ?» Donc chapitre connu s'il en est, et donc répertorié sous le titre du « Bon berger ». J'avoue que la lecture de ce chapitre, enfin de cet extrait, de ce début de chapitre cette semaine m'a fait du bien parce que je trouve que l'actualité nous a donné des exemples de folie absolue entre l'affaire de Dieudonné et l'affaire de notre président et de sa vie privée qui a fait la une des médias de façon absolument incroyable. Je trouvais que les bergers qui sont censés dans le monde profane, les médias, les journalistes qui nous donne des informations qui donc un peu dirigent nos pensées au sens large du terme, donner des voix qui ressemblaient plus à des cul-de-sac et on se disait mais qu'est-ce que ça vient faire dans nos vies, qu'est-ce que ça veut dire tout cela. et que de me remettre dans l'optique du bon berger qui, lui, trace une ligne réelle, profonde, puissante, avait quelque chose, pour moi, de tout à fait réconfortant. Alors, évidemment, c'est un texte énorme dont chaque verset contient des tiroirs que l'on pourrait tirer à l'infini. Je ne vais pas m'attaquer à tous les tiroirs, vous vous en doutez bien. Je vais essayer de comprendre surtout pourquoi, en plein milieu de cet évangile, il y a soudain cette parabole sur les brebis, les moutons, les loups, alors que jusqu'ici, il n'avait pas du tout été question de ces animaux-là. Pourquoi Jésus, soudain, se lance dans cette longue diatribe autour de cette parabole, donc. Pour comprendre ça, il faut revenir à tout ce qui a été étudié précédemment. Depuis le début de cet évangile, il faut bien comprendre que les Juifs et les Pharisiens ne comprennent rien à ce que Dieu leur raconte. On a vu ça donc depuis quelques mois. Ça commence par Nicodème, et là, qui vient se renseigner à propos de la nouvelle naissance, qui ne comprend pas comment cela peut se faire, comment peut-on naître de nouveau. Ça va se continuer au chapitre 5, à l'occasion de la guérison du paralysé pendant le sabbat. Nous avons cette phrase des Juifs qui est tout à fait représentative de leur incompréhension, donc le verset 18. « À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il disait que Dieu était son propre Père, se faisant ainsi lui-même égal de Dieu. » On va continuer. Pendant la multiplication des pains, nous avons vu que, et là je répète des phrases qui sont écrites, les Juifs disent, je vais plutôt le lire, verset 42 du chapitre 6, il disait, « Celui-ci n'est-il pas Jésus, le fils de Joseph, lui dont nous connaissons le père et la mère? Comment donc, dit-il, je suis descendu du ciel ?» Plus tard, ils diront, « Comment peut-il nous donner sa chair à manger ?» Puis à l'occasion de la fête des huttes, dont j'avais déjà parlé, ils disent « Comment connaît-il les Écritures, lui qui n'a pas étudié ?» Plus loin, « Mais que signifie cette parole ? Vous me chercherez et vous ne me trouverez pas, et là où je serai, vous ne pouvez venir. » Plus loin, chapitre 8, « Tu rends témoignage de toi-même, mais ton témoignage n'est pas vrai. » Et à propos de la femme adultère et tout le chapitre qui suit, ils ne comprirent pas qu'il parlait de son père. Plus loin, mais nous n'avons jamais été esclaves de personne, comment dis-tu que vous deviendrez libres? Au verset 53, es-tu plus grand que notre père Abraham qui est mort? Qui prétends-tu être? Et enfin, à propos de la guérison de l'aveugle qui avait été vue par Daniel il y a quelques semaines, comment un homme pécheur peut-il faire de tels miracles? Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-ci, nous ne savons pas d'où il est. Donc nous voyons dans l'ensemble de ces chapitres que Dieu, enfin Jésus, est tout présent au milieu d'eux, leur parle de façon claire et précise, avec des mots qu'ils comprennent, des mots de tous les jours, et qu'ils ne comprennent pas ni ce qu'il dit, ni ce qu'il fait. Et on a vu donc cette liste d'interrogations, de doutes, de remises en question, voire d'accusations. Et ça va aller jusqu'à ce pauvre aveugle donc, qui a retrouvé la vue. Et on va voir donc au verset, c'est le verset 9 précédemment, ils vont, au verset 34, jeter dehors cet aveugle, jeter dehors, donc c'est les pharisiens qui l'ont fait venir, sans doute aux abords du temple, dans la maison de Dieu, près de la maison de Dieu, et après l'avoir écouté une seconde fois, ils le jettent dehors de manière violente, en lui disant, tu ne comprends rien, tu nous dis n'importe quoi, ce n'est pas intéressant pour nous de te parler, va-t'en. Et Jésus le récupère à ce moment-là, voit qu'il a été jeté dehors, et lui dit qu'il est lui-même le Seigneur en qui il doit croire. Et c'est à ce moment-là qu'arrivent ces longs versets sur les brebis et les moutons. Alors, pourquoi à ce moment-là, devant les Juifs et les Pharisiens, se lance-t-il dans cette parabole? Eh bien, simplement parce qu'il s'est rendu compte que jusqu'à maintenant, il ne comprenait rien. Alors, puisqu'ils ne comprennent pas le langage simple et normal, il va leur parler avec des mots et surtout avec des paraboles qui vont faire écho à leur savoir, à leur connaissance. Parce que l'histoire des bergers, ça, dans leur savoir encyclopédique de tout juif qui se respecte et surtout de tout pharisien, ça veut dire quelque chose pour eux. Donc vous ne comprenez pas quand je vous parle en face de façon claire et précise avec des mots qui veulent dire les choses dont ils portent le premier sens, eh bien je vais revenir à un type de langage, à un vocabulaire que vous allez comprendre. Donc il va se lancer dans la parabole du berger. Et pour ces gens-là, le berger, ça veut dire quelque chose. Car il faut bien se dire que depuis le début de l'histoire du peuple juif, les grands hommes de cette histoire, même de l'histoire du monde, ce sont des bergers. Abel est berger. Abraham est un berger. Isaac est un berger. Jacob est berger et épouse Rachel, une bergère. Joseph est berger. Et à noter d'ailleurs qu'on le voit dans Genèse 37:2 alors que les Hébreux, le petit bétail, les moutons, les brebis, les boucs, c'est leur gagne-pain, c'est ce qui leur permet de vivre. Les Égyptiens, eux, détestaient les bergers et tous leurs troupeaux. Mais bon, c'est une incise. Moïse, quand il fuit l'Égypte, devient berger. Et surtout, le plus grand des bergers, et après, il n'y en aura plus, c'est David. On peut le lire dans Psaume 78-70. Nous lisons « Il a élu David, son serviteur, il l'a tiré des bergeries, il a pris derrière les brebis qui allaitent pour lui faire paître Jacob, son peuple, et Israël, son héritage. » Et David les a fait paître avec un cœur intègre et les a conduits avec des mains habiles. Donc quand il parle aux pharisiens d'un berger, tout de suite, pour eux, là, ça veut dire quelque chose. Parce que ça rentre dans leur connaissance, ça rentre dans leur savoir. Et ils ne peuvent pas rester insensibles à ce qui est dit, parce que dès qu'il dit « je suis le berger », eux, automatiquement, ils refont toute la lignée. Donc ils se placent à un niveau symbolique qu'ils ne peuvent pas, cette fois-ci, nier l'importance. Et d'autre part, quand dans le texte qu'on vient de lire, il parle des faux bergers, des mauvais bergers, alors qu'il disait pas la même, il disait des choses semblables dans les chapitres précédents, mais sur des actions et des moments concrets de l'existence qu'ils ne comprenaient pas, là, ils ne peuvent pas ne pas comprendre. Ce qui paraît obtus pour nous, abscons, pas évident, pour eux, c'est très clair. Et c'est tellement clair que je vais vous lire quelques versets et un chapitre assez long aussi pour que vous compreniez ce qu'ils ont tout de suite perçu quand Jésus leur a parler avec le texte que nous avons lu précédemment. Nous allons lire dans Ésaïe 56:10. Ces guetteurs sont tous aveugles, ils ne reconnaissent rien, ce sont tous des chiens muets, incapables d'aboyer, ils ont des rêveries, se tiennent couchés, aiment à sommeiller, et ce sont des chiens voraces qui ne savent pas se rassasier. Ce sont des bergers qui ne savent rien comprendre, tous suivent leur propre voie, chacun selon son intérêt exclusivement. Dans Jérémie, au chapitre 23, « Malheur aux bergers qui perdent et dispersent le troupeau de mon pâturage. Oracle de l'Éternel, c'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, sur les bergers qui font paître mon peuple. Vous avez disséminé mes brebis, vous les avez chassées, vous n'avez pas pris soin. Voici que j'interviendrai contre vous à cause de la méchanceté de vos agissements. Et je rassemblerai le reste de mes brebis, de tout le pays où je les ai chassées. Je les ramènerai dans leur enclos, elles seront fécondes et multiplieront. J'établirai sur elles des bergers qui les feront paître. Elles n'auront plus peur, elles ne trembleront plus, et il n'en manquera aucune, dit l'Éternel. Un peu plus loin dans Jérémie, au chapitre 50 et au verset 6, au milieu. Excusez-moi. Mon peuple était un troupeau de brebis perdues. Leurs bergers les égaraient, les détournaient par les montagnes. Elles allaient de montagne en colline en oubliant leur gîte. Tous ceux qui les trouvaient les dévoraient. Et leurs adversaires disaient : Nous ne sommes pas coupables, puisqu'ils ont péché contre l'Éternel, domaine de la justice, contre l'Éternel, espérance de leur père. Donc nous voyons des faux bergers égoïstes. Des faux bergers qui dispersent les troupeaux, qui conduisent les brebis sur les mauvais chemins. Et surtout, on va lire un chapitre assez long dans Ézéchiel, tout le chapitre 34, parce que vous allez voir, c'est exactement l'écho de Jean 10. Donc quand Jésus va dire aux pharisiens ce que nous avons lu, eux, ils vont comprendre tout de suite ce que ça veut dire, parce qu'ils vont évidemment, le comparer à ce qu'ils connaissent par cœur et qui se trouve dans Ézéchiel 34. Donc, je vous avais dit qu'on allait lire pas mal de choses. C'est le deuxième texte un peu long, mais je crois que c'est très important de l'entendre et de s'en imprégner. Donc, essayez de faire le rapprochement entre ce que nous avons lu précédemment et maintenant. Donc je vous rappelle que Ézéchiel, avec les livres de Daniel et les livres de l'Apocalypse, on appelle ça les livres des mystères, parce que ce sont des textes un peu compliqués à comprendre, qui ont des portes d'entrée parfois prophétiques, et tout ça n'est pas simple. Et ce n'est pas pour rien que Jésus, dans le texte de Jean qu'on a lu, se réfère à ce texte-là implicitement. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. « Fils d'homme, prophétise contre les bergers d'Israël, prophétise !» Et dis-leur aux bergers, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Malheur aux bergers d'Israël qui se repaissaient eux-mêmes. Les bergers ne devraient-ils pas faire paître les brebis? Vous mangez la graisse, vous êtes vêtus avec la laine, vous avez sacrifié les bêtes grasses, vous ne faites pas paître les brebis. Vous n'avez pas fortifié celles qui étaient faibles, soigné celles qui étaient malades, pansé celles qui étaient blessées. Vous n'avez pas ramené celles qui s'égaraient, cherché celles qui étaient perdues. Mais vous les avez dominés avec force et rigueur. Ça aussi, c'est un rappel, donc, quand il dira plus tard, quand une brebis tombe et se blesse le jour du sabbat, ne doit pas-t-on aller la chercher et la sauver? Elles ont été disséminées par manque de bergers. Elles sont devenues la proie de tous les animaux de la campagne. Elles ont été disséminées. Mes brebis errent sur toutes les montagnes et sur toutes les collines élevées. Mes brebis sont disséminées à la surface de tout le pays. Nul n'en prend soin, nul ne les cherche. C'est pourquoi, berger, écoutez la parole de l'Éternel. Je suis vivant. Parce que mes brebis sont au pillage et parce que mes brebis sont devenues la proie de tous les animaux de la campagne, faute de bergers. Parce que mes bergers ne prenaient aucun soin de mes brebis. Parce que les bergers se repaissaient eux-mêmes et ne faisaient pas paître mes brebis. À cause de cela, berger, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, me voici contre les bergers. Je réclamerai mes brebis de leurs mains. Je ne les laisserai plus faire paître mes brebis pour que les bergers ne se repaissent plus eux-mêmes. J'arracherai mes brebis de leur bouche et elles ne seront plus une proie pour eux. Car ainsi parle le Seigneur l'Éternel, c'est moi-même qui prendrai soin de mes brebis et j'en ferai la revue. Comme un berger fait la revue de son troupeau quand il est au milieu de ses brebis éparses, ainsi je ferai la revue de mes brebis et je les arracherai de tous les lieux où elles ont été disséminées. Un jour de nuée et de brouillard. Je les ferai sortir d'entre les peuples, je les rassemblerai des divers pays et je les ramènerai sur leur territoire. Je les ferai paître sur les montagnes d'Israël, le long des ruisseaux et dans tous les lieux habitables du pays. Je les ferai paître dans un bon pâturage et leur parc sera sur les montagnes du haut pays d'Israël Là, elles reposeront dans un parc agréable et elles pourront paître dans de gras pâturages sur les montagnes d'Israël. C'est moi qui ferai paître mes brebis, c'est moi qui les ferai reposer, oracle du Seigneur l'Éternel. Je chercherai celle qui était perdue, je ramènerai celle qui était égarée, je panserai celle qui est blessée et je fortifierai celle qui est malade. Mais je détruirai celles qui sont grasses et vigoureuses, je les ferai paître avec justice. Et vous, mes brebis, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, me voici, je juge entre agneau et agneau, entre bélier et bouc. On peut d'ailleurs faire juste un petit arrêt. Dans Matthieu 25, 32, ne bougez pas, je vous lis juste ça. Matthieu 25, 32, quand il va parler de la fin des temps, il dira... Toutes les nations, lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur son trône de gloire, toutes les nations seront assemblées devant lui, il séparera les uns avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Donc quand il dira ça aussi, les gens entendront et se référeront à ce chapitre d'Ézéchiel. Je continue. Est-ce trop peu pour vous de paître dans le bon pâturage pour que vous fouliez de vos pieds le reste de votre pâturage, de boire une eau limpide pour que vous troubiez le reste avec vos pieds ? Mes brebis doivent paître ce que vos pieds ont foulé et boire ce que vos pieds ont troublé. C'est pourquoi, ainsi leur parle le Seigneur, l'Éternel, c'est moi-même qui jugerai entre l'agneau gras et l'agneau maigre. Parce que vous avez heurté avec le flanc et avec l'épaule et frappé de vos cornes toutes les brebis faibles jusqu'à ce que vous les ayez disséminées en dehors, je sauverai mes brebis. Afin qu'elle ne soit plus au pillage, et je jugerai entre agneau et agneau. J'établirai sur eux un seul berger, qui les fera paître, mon serviteur David. Il les fera paître, il sera leur berger. Moi, l'Éternel, je serai leur Dieu, et mon serviteur David sera prince au milieu d'eux. Moi, l'Éternel, j'ai parlé. Je conclurai avec eux une alliance de paix, je ferai disparaître du pays les animaux sauvages. Ils habiteront en sécurité dans le désert et dormiront au milieu des forêts. Je ferai d'eux et des environs de ma colline un sujet de bénédiction. J'enverrai la pluie en son temps, et ce seront des pluies de bénédiction. L'arbre de la campagne donnera son fruit, et le pays donnera ses productions. Ils seront en sécurité sur leur territoire. Ils reconnaîtront que je suis l'Éternel, quand je briserai les liens de leurs joues, et que je les délivrerai de la main de ceux qui les asservissaient. Ils ne seront plus au pillage parmi les nations, les animaux du pays ne les déverront plus, ils y habiteront en sécurité, il n'y aura personne pour les troubler. J'établirai pour eux une plantation qui aura du renom. Ils ne seront plus emportés par la famine dans le pays. Ils ne seront plus chargés d'opprobre par les nations. Ils reconnaîtront que moi, l'Éternel, leur Dieu, je suis avec eux et qu'ils sont mon peuple, eux, la maison d'Israël. Oracle du Seigneur l'Éternel. Et ce dernier verset magnifique. Vous, mes brebis, brebis de mon pâturage, vous êtes des êtres humains. Moi, je suis votre Dieu. Oracle du Seigneur l'Éternel. Alors, évidemment, quand Jésus leur parle du bon berger et surtout des mauvais bergers, c'est terrible pour eux. Et là, ils comprennent. Parce qu'il est en plein dans leur culture, il est en plein dans leur savoir, il est en plein dans leur symbolique à eux. Et il n'est pas impossible aussi à ce moment-là qu'ils aient forcément en mémoire la prophétie de Ésaïe. De 53.6, que nous connaissons tous, mais qui là prend peut-être encore un angle différent. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui la faute devant nous tous. Il a été maltraité, il s'est humilié et il n'a pas ouvert la bouche, semblable à l'agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui la tondent. Il n'a pas ouvert la bouche, il a été emporté par la violence et le jugement. Et il n'est pas impossible non plus qu'en entendant Jésus dire ce qu'on a lu au chapitre 10, ils aient, parce qu'ils avaient des espions partout, souvenir de ce que Jean-Baptiste a dit tout au début de l'évangile de Jean, quand il présente Jésus qui arrive vers lui et qui leur dit au chapitre 1 et au verset 29, le lendemain il vit Jésus venir à lui et dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Donc, à ce moment-là, Ils ont parfaitement compris, avec tout cet arrière-plan culturel, ce que Jésus pense d'eux, ce que Jésus dit d'eux, et l'énormité de leur aveuglement, dont il est question d'ailleurs juste à la fin du chapitre 9, quand il dit « Mais sommes-nous aveugles ? Nous ne sommes pas aveugles puisque nous voyons. » Jésus leur dit au chapitre 41 « Si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché, mais maintenant vous dites « Nous voyons, aussi votre péché demeure. » Donc, si on relit ce verset 10, ce chapitre 10, à l'aune de tout ce qu'on vient de mettre en parallèle, de tout ce qu'ils ont à l'intérieur d'eux-mêmes, voici ce qu'ils vont recevoir vraiment. Dans la première partie de notre chapitre 10, le bon berger entre par la porte, le mauvais berger entre par effraction. Les uns apportent les ténèbres, quand on rentre par en dessous, par la petite porte, etc., il n'y a rien qui rentre dans la bergerie. Lui, Jésus, il entre par la grande porte. Les portes qui s'ouvrent font entrer la lumière. Jésus est la lumière. Eux, ils sont les ténèbres. Dans la deuxième partie, le berger appelle les brebis par leur nom. Les brebis reconnaissent la voix du berger, pas celle de l'étranger. Jésus, lui, il apporte la connaissance, la vraie connaissance, la connaissance de chacun. Et pas l'ignorance qui sépare les gens entre eux. Dans la troisième partie, il entrera, il est marqué, la brebis entrera et sortira, ira dans les pâturages. Elle entre, elle sort, elle fait ce qu'elle veut, elle est libre. Jésus, lui, apporte la liberté, alors que les pharisiens mettent le joug. Et ensuite, il dit, par lui, les brebis ont la vie en abondance. Lui, il apporte la vie. Eux, ils volent, ils apportent la mort. Dans la quatrième partie, le bon berger donne sa vie pour les brebis, le mauvais berger lui les abandonne au loup. Il y en a un qui donne l'amour, l'autre qui se carapate et qui ne pense qu'à lui. Et enfin, la dernière partie, il y aura un seul troupeau pour un seul berger. C'est une promesse magnifique. Une promesse d'unité, une promesse d'universalité, donc une promesse de forcément d'un bonheur parfait. Voilà ce qu'ils entendent en contrepoint de ce qu'ils sont eux-mêmes dans ce discours de Jésus, parce qu'ils ont tout l'arrière-plan culturel dont on a déjà parlé. Ils voient que Jésus est lumière, que Jésus est la vraie connaissance, que Jésus donne la liberté, que Jésus donne la vie, que Jésus est l'amour et que Jésus promet quelque chose de magnifique. Alors, j'aimerais maintenant essayer de, dans cette dernière partie, essayer d'aller un peu plus loin dans ce que, en quoi ça peut nous servir, nous, là, quotidiennement, parce qu'évidemment, ces mots-là, on les comprend, ces phrases-là, on les comprend, ça nous parle, mais il faut qu'on puisse en faire quelque chose de vivant, de précis dans notre quotidien. Et je pense que pour ça, il faut essayer de voir le mal qui nous guette. On voit le bien qui nous attend avec ce bon berger, mais quel est le mal qui nous guette ? Parce que c'est facile de dire « t'es le mauvais berger », etc. Mais si un mauvais berger, c'est qu'il y a aussi des mauvaises brebis. Parce que si le mauvais berger, il a beau faire « cuicuicuicui, venez ». Enfin, on ne fait pas « cuicui » aux moutons, hein, mais vous m'avez compris. Mais que toutes les brebis étaient super bonnes. Ils disaient « non, moi, attends, moi, j'ai le bon, moi, je n'y vais pas ». Le mauvais berger, il pourrait faire ce qu'il veut, ça ne marcherait pas. Donc s'il y a des mauvais bergers, c'est qu'il y a des mauvaises brebis. Et s'il y a des mauvaises brebis, c'est qu'il y a des faiblesses qui sont les nôtres et que nous devons combattre. Et moi, il y a un verset qui m'a beaucoup, un bout de verset, c'est celui où il parle de verset 12, « Mais le mercenaire qui n'est pas berger, qui a les brebis, n'appartiennent pas, voit venir le loup, abandonne les brebis et s'enfuit, et le loup s'en empare et les disperse. » Et j'aimerais qu'on parle du loup, parce que le loup, il nous guette tous, on a tous un loup en nous, voire plusieurs, ou des louves, pour ne pas faire de sexisme. Et pour parler de ça, le loup, dans le Nouveau Testament, on en parle trois fois. Dans Matthieu 7,15, c'est surtout Matthieu, verset 15, « Gardez-vous des faux prophètes, ils viennent à vous comme des brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. » Donc le loup prend, le loup ravit, le loup enlève. Ensuite, dans Matthieu 10, 6, juste un peu plus loin, ce n'est pas ça, mais c'est pas grave. Il est dit que le loup est là, et en fait qu'il n'allait pas vers. C'est quand il envoie ses disciples aller prêcher, il dit faites très très attention parce que je vous envoie parmi les loups, et ces loups sont les hommes qui vont vous prendre et qui vont vous juger. Donc le loup juge. Et enfin, dans Actes 20, 29, le loup trompe. Je sais que parmi vous, après mon départ, s'introduiront des loups redoutables qui n'épargneront pas le troupeau, et que du milieu de vous se lèveront des hommes qui prononceront des paroles perverses pour entraîner le disciple après eux. Et donc le loup trompe. Donc le loup enlève. Le loup juge, le loup trompe. Mais là encore, ce sont des idées qu'on peut comprendre, mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Alors pour ça, je vais servir, comme Jésus s'est servi de l'arrière-plan culturel des pharisiens pour leur dire vraiment ce qu'ils pensaient, moi je vais me servir de notre arrière-plan culturel à nous. Qu'est-ce qu'est le loup pour nous? Eh bien, le loup, il intervient dans plusieurs petites histoires qu'on raconte à nos enfants. La première, c'est la fable du loup et l'agneau. Donc si tu pouvais envoyer le loup et l'agneau, s'il te plaît, Martine. Voilà. Donc on va lire ce loup et l'agneau pour essayer de, en se mettant dans notre arrière-plan à nous, essayer de comprendre comment ça peut fonctionner. La raison du plus fort est toujours la meilleure, nous l'avons montré tout à l'heure. Alors, voilà, la raison du plus fort est toujours la meilleure, ça nous dit quelque chose. Dans notre monde, le plus fort est censé triompher. Alors, on a eu des tas d'analyses psychanalytiques de toutes les fables de La Fontaine. Nous, pour la première fois, en direct, avec une émissaire de Shanghai, nous allons faire une analyse chrétienne du loup et l'agneau de Jean de La Fontaine. Alors, un agneau se désaltérait dans le courant d'une onde pure. Vit avec Jésus, l'onde est pure, on se désaltère, on est un agneau, on boit de l'eau qui nous donne la vie en Jésus. Un loup survient à jeun qui cherchait aventure. Il est à jeun, lui n'est pas rempli par Dieu. Donc déjà le loup, pour nous, c'est quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, qui cherchait aventure, qui cherche les histoires, et que la faim en ces lieux attirait. Donc il est venu là où l'agneau boit. Donc il est venu sur notre territoire. Le loup n'est pas forcément celui que l'on va aller voir dans des endroits dits malfamés. Le loup, peut-être, c'est celui qui va s'approcher de nous, qui va venir parmi nous, qui va donner le sentiment de s'intéresser à ce qu'on fait, à ce que l'on est. « Qui te rend si hardi de troubler mon breuvage ?» dit cet animal plein de rage. « Qui te rend si hardi de troubler mon breuvage ?» Et le loup, ça peut être celui qui s'approprie notre héritage chrétien, qui est commun à tous. Ça fait penser à ce que disait David au début. Moi, j'ai mon culte à moi, je connais, je sais comment ça fonctionne, je suis assez intelligent. Le loup peut-être le plus redoutable, c'est celui qui est censé nous ressembler peut-être. Dit cet animal plein de rage, donc rempli de colère, d'une espèce de frustration intérieure de ces gens que l'on peut voir et dont on sent qu'ils ont un mal-être qui peut être contagieux et donc dangereux, tu seras châtié de ta témérité. La réponse de ces gens-là, le mode de fonctionnement plutôt, c'est la violence, avant la discussion. Comment réagissons-nous face à ça ? Ah si, répond l'agneau, que votre majesté ne se mette pas en colère, mais plutôt qu'elle considère que je me vas désaltérant dans le courant plus de 20 pas en dessous d'elle, et que par conséquent, en aucune façon, je ne puis troubler sa boisson. Réaction de peur. J'ai peur. Excusez-moi. Pardon, je ne veux pas vous déranger. Oui, vous avez raison. Et mais, en plus, majesté, je vous mets en avant, je vous glorifie, je vous fais le petit veau d'or dont vous avez besoin, que vous réclamez. Je vous mets sur un piédestal et j'essaye de raisonner. Je suis pas vrai, je suis un peu plus bas, je ne vous dérange pas. Voilà, c'est-à-dire que nous, au lieu d'oser affirmer avec la force que doit nous donner notre Seigneur, je suis enfant de Dieu, j'ai des choses à dire, j'ai des choses à assumer. Non, je vais rentrer dans ce jeu de la personne qui me fait peur, de ce loup-là, en lui donnant déjà des titres qu'il ne mérite pas, et en plus, en essayant peut-être de le flatter pour rentrer plus dans ce qu'il souhaite entendre, pour essayer de le désamorcer. Est-ce la bonne façon d'agir ? On va voir la suite de la fable. « Tu la troubles, reprit cette bête cruelle, et je sais que de moi tu médis l'an passé. » Réponse de notre loup. « Mauvaise foi, tu la troubles. » Rien du tout, le fait de boire 20 pieds en dessous trouble cette eau-là. « Et je sais que de moi, tu médis l'an passé, le mensonge. » Donc le fait d'avoir réagi comme ça, ça ne l'a pas désarçonné, au contraire. Il répond avec mauvaise foi et il ment. « Que fait l'agneau ? Que faisons-nous ? Comment l'aurais-je fait si je n'étais pas né ?» Reprit l'agneau, « Je t'aide encore ma mère. » Donc c'est pas possible que je vous ai fait du mal et que j'ai médit de toi l'an passé, j'étais pas né. Tentative de raisonnement, on va essayer de se mettre sur le chemin du bon sens. On peut se mettre d'accord, hein ? On va essayer, en dehors même de tout christianisme, on va essayer voilà, il y a des choses qui ne peuvent pas correspondre. Non, si c'est toi, c'est donc ton frère. Ben, je n'en ai point. Eh bien, donc c'est donc quelqu'un des tiens, car vous ne m'épargnez guère, vous, vos bergers et vos chiens. Pas de souci, le loup, il nous culpabilise. Ça, c'est très, très facile. Écoute, c'est peut-être pas toi qui, mais tu connais la personne qui suit. Ou tu n'as rien fait pour intervenir, ou tu ne m'aides pas, ou tu es là avec tes grandes phrases et tes grands mots. Mais qu'est-ce que tu fais pour moi, hein ? Rien. Culpabilité, car vous ne m'épargnez guère, vous, vos bergers et vos chiens. Paranoïa, persécution. Nous devons être au service de toutes les faiblesses et de tous les manquements et de toutes les horreurs du monde. Parce que c'est moi qui en souffre, moi le loup. Et l'on me dit, on me dit, alors le fameux « on » contre lequel on ne peut pas lutter, le « on » des médias, le « on » de la vox populi, le « on » de la civilisation, on me dit, il faut que je me venge. Le « on », c'est le mal qui est partout. C'est normal de faire « on », vas-y. Œil pour œil, dent pour dent. Et qu'arrive-t-il ? Là-dessus, au fond des forêts, le loup l'emporte et puis le mange, sans autre forme de procès. C'est la loi du plus fort, en effet, qui a triomphé. Notre agneau, nous sommes dévorés par ce loup-là, qui pourtant était venu parmi nous, mais devant lequel nous avons tout à fait mal réagi par manque de confiance dans la force de notre Seigneur. Alors, on va aller plus loin dans notre arrière-plan culturel à nous, on va parler du petit chaperon rouge. Alors, le petit chaperon rouge, alors on ne va pas vous le dire parce qu'il y a eu plein de versions. Ce qui est intéressant, tout le monde connaît le petit chaperon rouge, hein, vous voyez, c'est comme pour les pharisiens, je n'ai pas besoin de tout redire, vous le savez. L'enfant se fait manger. Pourquoi son enfant se fait-elle manger ? Car quand elle rencontre le loup, elle lui dit tout ce qu'il ignore. Où elle va ? Ce qu'elle va apporter, par quel chemin elle passe et chez qui elle va. Et pourquoi est-ce qu'elle le fait ? Quand on lit le conte, on le voit, car elle ignore que le loup est un animal cruel. C'est marqué. C'est une petite fille, elle ne connaît pas. L'ignorance du mal fait rentrer le loup dans nos vies. Mais quand on dit l'ignorance du mal, alors pour cette petite fille, c'est une ignorance qui a l'air sincère, mais si on va chez la grand-mère, elle n'a pas cette excuse-là, la grand-mère. Elle connaît la vie, la grand-mère. C'est pas un nouveau-né, hein ? Elle connaît la vie, mamie. Pardon. Eh bien, qu'est-ce qu'elle fait, la grand-mère ? Elle ouvre la porte Alors qu'elle sait qu'il y a un loup qui rôde. Et elle ouvre la porte sur quoi ? Sur un bout de pâte avec un peu de farine et sur une voix. Elle n'est pas capable de reconnaître une vraie pâte d'enfant et une pâte de loup, même avec de la farine. Elle n'est pas capable de reconnaître une voix de loup, même si moi j'essaie de voir une voix de petite fille. « Oh, mamie, c'est moi !» Ça ne sera jamais la voix de ma fille Nikita, c'est évident. Donc elle, c'est pas qu'elle est ignorante du mal, c'est qu'elle est bête, c'est qu'elle n'est pas intelligente. Elle ne fait pas fonctionner l'intelligence que Dieu lui a donnée. Elle fait confiance. Mais non, il ne faut pas faire confiance comme ça. Il faut mettre la connaissance que Dieu nous donne au service de notre vie au quotidien pour reconnaître les dangers, pour savoir les éviter, pour savoir les affronter. C'est facile de dire « je ne savais pas ». Au début, peut-être qu'on ne sait pas quand on est un petit chaperon rouge, d'accord ? Mais c'est à nous d'élever ceux qui ne savent pas, les nouveau-nés en Christ, et nos enfants, et nos petits-enfants, et de leur dire « attention ! Là, il y a le mal, là, il y a le bien. » Et quand ça nous arrive à nous-mêmes, soyons intelligents, soyons lucides, servons-nous de ce que Dieu, du discernement que Dieu nous donne par son esprit, pour ne pas tomber dans tous les pièges. Et je voudrais lire sur ça 2 Timothée. Je parlais de Nikita, mais attends, je parle de Timothée. C'est pas fait exprès, pour ceux qui me connaissent un peu. Alors, 2 Timothée, mais il y a un deuxième Timothée qui se promène, donc... Je n'ai plus l'exclusivité. 2 Timothée 3. Voilà des loups qui vont être précisés. Sache que dans les derniers jours surgiront des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes. Un loup, ami de l'argent, fanfaron, orgueilleux, blasphémateur, rebelle à leurs parents, ingrat, sacrilège, insensible, implacable, calomniateur, sans frein, cruel, ennemi des gens de bien, traître, impulsif, enflé d'orgueil, aimant leur plaisir plus que Dieu. Ils garderont la forme extérieure de la piété. Tiens, le loup qui est venu dans notre fable au début. Mais ils en renieront la puissance. Éloigne-toi de ces hommes-là. Sois lucide. Et j'aime bien ce verset 6 qui nous parle de notre grand-mère. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent certaines femmes. Bon, femmes au sens général, hein, parce que les hommes, c'est pas mieux. Hein, chargés de péchés et agités par des passions variées. Ils apprennent toujours sans pouvoir jamais arriver à la connaissance de la vérité. Est-ce que cela que Dieu veut de ses enfants ? Soit des ignorants du mal, soit des gens qui ne sont pas capables de le discerner et de se battre contre ? Alors heureusement, le chasseur arrive, il sauve le monde. Il sauve le monde, oui. Enfin, là, il sauve la grand-mère. Il sauve l'enfant, le petit chaperon rouge. Alors si on allait plus loin, elle est dans le ventre, comme Jonas était dans le ventre de la baleine. Je laisse Yann et quelques spécialistes pour tirer tous les fils de cette histoire-là. Il y en a sûrement beaucoup. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que la grand-mère, dans le texte, si vous le lisez, elle est dit que quand il la retire du ventre avec son grand couteau, le chasseur qui vient sauver tout le monde, elle est presque asphyxiée. C'est-à-dire qu'elle est sauvée vraiment à la dernière minute. C'est-à-dire qu'il ne va pas pouvoir nous sauver tout le temps. Enfin, il y a un moment où notre responsabilité, elle est quand même largement importante dans notre mode de vie. Alors évidemment qu'on va être sauvé parce que Dieu ne reprend pas ce qu'il a promis, mais dans notre vie au quotidien réel, l'asphyxie peut-être, elle va venir plus tôt que prévu. Et enfin, pour terminer, je suis sûr que vous avez déjà pensé à la troisième petite histoire où il y a un loup dedans dans notre arrière-plan culturel. Pardon ? J'aime pas la chèvre de M. Seguin, ça c'est, tu vois, c'était les trois petits cochons. Trois petits cochons, vous voyez, vous faites, vous comprenez tout de suite. Hein ? Et ben, les trois petits cochons, c'est ceux qui s'en sortent le mieux. Pourquoi ? Parce qu'ils sont d'abord dans la maison de paille, puis le loup, il arrive, il rentre, il souffle. Oh, heureusement, ils n'essayent pas de discuter, là. Vous avez vu, ils sont pas comme l'agneau de notre femme. Oui, oh, ben, ouais, c'est que tu es beau. Non, non, ils partent. Ils vont à l'autre, à la maison de bois. Pareil, le loup, il arrive, il ne commence pas à dire « Attends, on peut discuter, on va se mettre... » Non, non, rien, ils partent. Ils n'ouvrent pas la porte, ils savent qui est là, ils le savent. Et ils vont où ? Dans la maison de pierre du troisième. Et là, le loup, il ne peut rien faire. Le loup, il ne peut pas rentrer. Ben, c'est cet exemple que l'on doit suivre. Parce que cette maison-là, c'est la bergerie du Père. C'est celle qui ne nous pose aucun souci, c'est celle dont parle Jésus dans ce chapitre de Jean. Il dit « Je suis le bon berger », je dis « Dans la bergerie, on peut rentrer, on peut truc, personne ne peut venir par tous les côtés. C'est cette maison-là qu'il nous faut. Et dans Jean, un peu plus loin, au chapitre 14, pour ceux qui suivront, au verset 1 à 4, « Que votre cœur ne se trouble pas, croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père, sinon je vous l'aurais dit, car je vais vous préparer une place. » Et dans cette maison-là, on ne risque rien. Mais pour y rentrer, il faut évidemment avoir choisi le camp de Dieu, mais il faut aussi être capable de discerner le mal, de voir les loups, de savoir se comporter vis-à-vis d'eux d'une façon intelligente avec le discernement que Dieu nous donne, et de ne pas se jeter par ignorance naïve ou par manque d'intelligence dans ses propres griffes, dont il ne pourra peut-être pas nous tirer à chaque fois de notre vie terrestre. Parce que dans cette maison, il y a la lumière, la connaissance, la liberté, la vie, l'amour et la promesse d'une éternité. Alors, à la fin de ce chapitre 10 que nous avons lu, comment réagissent les interlocuteurs, les juifs, les pharisiens ? Deux façons de réagir. Plusieurs disaient « Il a un démon, il est fou. Pourquoi l'écoutez-vous » Et les autres ?« Non, non, ces paroles ne sont pas celles d'un démoniaque. Un démon peut-il ouvrir les yeux des aveugles ?» Voilà. Est-ce que nous sommes du côté de ceux qui disent qu'il est fou ? Évidemment que non. Mais ce sont des mots, ça. Mais il faut le mettre en place et comprendre tout ce qu'il a dit. Et là, tous les pharisiens, ils ont parfaitement compris, là, maintenant, avec tout leur arrière-plan culturel. Mais nous aussi, avec notre arrière-plan à nous, on sait ce que ça veut dire. Donc, être le bon berger, certes, mais un bon berger, c'est avec des brebis intelligentes, des brebis qui se battent, et pas des brebis stupides et niaises qui vont se faire mener à droite, à gauche, et des brebis qui doivent progresser pour devenir l'égal du berger. Parce que le berger, qu'est-ce qu'il a fait, lui ? Il est devenu l'égal des brebis, puisqu'à la fin, il s'est fait mener comme une brebis, mais c'était son choix, et à la fin, dans l'Apocalypse, l'agneau, c'est plus le berger, c'est l'agneau. Donc on est tous amenés, en tant que brebis, à devenir l'égal du berger et à progresser. Je vous remercie.